Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'actualité à la mi-journée sur Europe 1. 72 heures pour remettre Marseille d'aplomb. Emmanuel Macron se rend sur place à partir d'aujourd'hui, le chantier est lourd, la crise est profonde, nos informations sur le plan du président de la République. Est-ce que cela sera suffisant pour lutter contre la grande délinquance? On sera sur place avec notre correspondant et puis j'appellerai un spécialiste, un grand spécialiste des trafics de drogue et un député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. On va vous raconter également dans Europe Midi l'histoire d'une attaque de train en pleine journée près de Clermont-Ferrand. On se serait cru dans un western, vous allez voir. Et puis il sera question également du revenu d'engagement pour les jeunes lors des rencontres avec les partenaires sociaux à partir d'aujourd'hui à Matignon. Est-ce que ce sera efficace? Faut-il donner jusqu'à 500 euros par mois aux jeunes précaires pour qu'ils acceptent une formation ou un stage qui les ramène vers l'emploi, comme on dit? On va en parler également dans Europe Midi. Vous pouvez également nous donner votre avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe Midi. Emmanuel Macron va passer 3 jours et 2 nuits à Marseille. 3 jours et 2 nuits pour tenter, je dis bien tenter, de redresser la ville de Marseille. Une ville, soit dit en passant, en quasi-faillite. Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques, vous êtes en direct de l'Élysée. Dites-nous Jacques, le président de la République va se déplacer avec 7 ministres. Quelles sont vos informations sur ce qui va être annoncé?
Eh bien d'abord, des promesses. Le chef de l'État devra annoncer un engagement financier important pour la deuxième ville de France. Plusieurs milliards d'euros, un plan d'investissement intitulé Marseille en grand, à destination notamment de la rénovation de plus de 200 écoles dans la cité phocéenne. Pour le volet éducation, Jean-Michel Blanquer sera demain, pour jour de rentrée oblige, aux côtés du président dans la cité phocéenne. Éducation, transport, logement, mais c'est surtout les questions de sécurité qu'Emmanuel Macron, sur les questions de sécurité qu'Emmanuel Macron est très attendu. La sécurité, la mère de toutes les batailles pour Gérald Darmanin. Manin, le ministre de l'Intérieur, qui s'apprête lui aussi à partir avec le chef de l'État pour une visite ce soir d'un commissariat des quartiers nord, tenter de mettre fin au règlement de compte entre trafiquants de drogue qui ont fait 15 morts depuis le début de l'année, lutter contre la criminalité, sans donner toutefois que Paris veut gérer Marseille, se défend l'Élysée ce matin. Toujours est-il qu'à 7 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron va passer beaucoup de temps dans la deuxième ville de France. Vous le disiez, 3 jours, 2 nuits. Jamais depuis le début de son mandat, le président n'était resté aussi longtemps dans une seule et même ville.
Jacques Serret en direct de l'Élysée. Merci beaucoup Jacques. Le sujet le plus sensible, c'est donc le volet sécurité. On vous en a beaucoup parlé. Les règlements de compte, ils ont fait 15 morts depuis le début de l'année. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Stéphane, les quartiers sensibles sont nombreux à être dirigés par les trafiquants de drogue qui font la loi, il faut le dire. 156 points de deal répertoriés à Marseille. Certains génèrent des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque jour. On voit même des cités, Jacques, avec des barrages à l'entrée.
Oui, il y a une ambiance au final qui est très pesante dans certains quartiers où les allées et venues sont guettées. Les trafiquants redoublent de vigilance et de moyens pour se protéger des opérations de police. On a pu récemment voir l'exemple de Hers artisanal. Tout ça participe au final à un climat insupportable pour Quentin qui vit dans une cité du 3e arrondissement.
Pour moi, en fait, c'est une frontière, c'est un pays dans un pays. Il y a les guetteurs en permanence, ils se mettent devant et ils regardent qui rentre, qui sort. C'est des cris, c'est ça court dans la cité dès qu'il y a des fourgons de CRS qui passent. On a l'impression qu'on vit sous contrôle, mais pas sous contrôle de l'État, mais sous le contrôle des dealers. Et donc pour moi, c'est une zone de non-droit.
Et l'inquiétude en conséquence des parents. Écoutez, comme Salia, une jeune maman de 2 enfants.
On a peur des balles perdues, on a peur de plein de choses. Bien sûr, pour nos enfants, on ne sait pas s'ils ne vont pas se faire embobiner par les autres. Nous, on éduque nos enfants avec nos valeurs et après, il y a beaucoup d'enfants qui tournent vite.
Il y a du désespoir, on l'entend, l'impression que rien ne bouge, selon Baya, une maman qui a perdu son fils il y a 8 ans maintenant.
Il a été tué par balle et brûlé dans une voiture juste derrière chez moi.
Il n'y a rien, non. 8 ans après, il n'y a rien. 8 ans après, c'est encore pire. Ça fait vraiment peur. Je l'ai déjà crié une fois quand ils ont tué mon fils. Arrêtez ce massacre, il faudrait que ça s'arrête.
Et c'est pourquoi les attentes sont fortes ici pour améliorer la vie au quotidien dans ces quartiers, même si beaucoup de ces habitants craignent des effets d'annonce qui ne seraient pas suivis d'effets.
Stéphane Burgat en direct de Marseille. Merci beaucoup Stéphane. Frédéric Ploquin, bonjour, je voulais vous avoir dans Europe Midi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, spécialiste, grand spécialiste du banditisme, auteur du livre « Les narcos français brisent l'omerta ». Est-ce qu'on va casser ces pratiques avec 300 policiers supplémentaires comme s'apprête à l'annoncer le président de la République ?
Mais écoutez, il y a plusieurs choses. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de rebâtir des écoles et de moderniser le tramway et le métro que de venir à bout, non pas du trafic, mais même des points de deal sur une ville comme Marseille où votre journaliste parlait de 156 points. C'est énorme. Donc je pense qu'il y a plusieurs registres. Sur un premier registre, c'est vrai que le fait qu'ils s'entretuent entre eux, c'est une erreur de leur part d'ailleurs, parce que normalement le trafic prospère dans une forme d'ordre et fait régner d'une certaine façon une forme de sécurité, puisque ces trafiquants ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de vagues. De temps en temps, ça dérape complètement, parce qu'en fait, la volonté de tuer celui qui les a arnaqués, celui qui a volé la place, etc., devient plus forte que tout le reste, mais ils vont peut-être revenir à la raison. Et là, pour la police, il y a plusieurs chantiers. Le premier, effectivement, c'est de résoudre les règlements de compte. Parce que, comme disait cette maman à l'instant, à partir du moment où vous arrêtez les assassins, vous les jugez, vous les condamnez, vous les envoyez en prison, peut-être que vous arrivez à enrayer, en partie, cette espèce d'hécatombe. Parce que eux, le fait qu'il y ait des ministres, président de la République à Marseille, peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne le savent même pas. En fait, ils sont dans leur monde, donc ils vont continuer. Mais si on renforce, comme ça a l'air d'être prévu, les effectifs notamment de la police judiciaire, probablement vont-ils réussir davantage à peut-être empêcher, parce qu'en fait, si on fait du bon renseignement criminel, on est dans les quartiers, on peut empêcher, ce qui a été le cas d'ailleurs un certain nombre de fois, des règlements de compte de se produire. Ça, c'est une chose. Après, voilà, on aura donc de belles écoles, des beaux tramways et des beaux métros, et les clients, grâce à ces beaux métros, vont continuer à venir. Les clients des quartiers bourgeois vont continuer à venir.
Vous n'êtes pas très optimiste.
De manière plus facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si optimiste, déjà, il faut l'être sur, peut-être au moins sur un plan, c'est peut-être enrayer l'hécatombe, arrêter, tenter de faire en sorte que ces jeunes de 14 à 25 ans cessent de tomber comme des mouches à Marseille et ailleurs. D'ailleurs, il faut le rappeler, il n'y a pas que Marseille. Ça, c'est possible si on renforce considérablement au palais de justice les juges spécialisés. À la police judiciaire, si on remet des hommes sur le terrain, ça c'est possible. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Voilà. Frédéric Ploquin, pour tenter de comprendre l'étendue du problème, dans une cité gangrénée par le trafic de drogue, on a coutume de dire que 95% des habitants subissent. C'est vrai ou en réalité, ça fait vivre beaucoup de monde ? Et plus que les 5%.
Ça a été dit par... Bon, c'est difficile de dire si c'est 5-10%. Mais globalement, ça a été dit là par les quelques témoins à qui vous avez donné la parole. En gros, le principal problème, c'est quand même que la très grande majorité des habitants de ces quartiers sont pris en otage par cette économie souterraine et n'en bénéficient pas. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui bénéficient du trafic. Ça va de la petite main en bas qui se fait un peu d'argent de poche au patron du point de deal qui, en général, ne vit plus, d'ailleurs, sur le quartier. Et autour d'eux, forcément, quelques familles, nécessairement. Je veux dire, tous ceux à qui je parle me disent que tous ces petits voyous, petits caïds à qui je parle, me disent qu'ils remplissent effectivement le frigidaire de la famille.
De la famille, oui.
En général, ça se passe dans des familles extrêmement miséreuses. Mais à partir de là, il y a aussi tous ceux qu'on oblige à travailler pour le entre guillemets le cartel local. Et là, il faut quand même le dire. Je veux dire, moi, dans toutes les cités où je suis allé enquêter, vous avez des gens, des personnes en état de faiblesse, des gens qui sont à la côte Aurep, qui sont des handicapés, des personnes, des mères de famille seules, qui sont obligés, on va dire ça comme ça, qui sont en tout cas sollicités par les trafiquants qui placent et dissimulent chez eux leurs produits, leurs armes.
Oui, obligés de devenir des mules, quoi, des caches, quoi, de cacher la drogue, obligés de cacher la drogue. Frédéric Ploquin, merci beaucoup, spécialiste du grand banditisme et je le rappelle, auteur du livre « Les narcos français brisent l'omerta ». On est à présent en direct avec Saïd Ahamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Bonjour, monsieur le député, merci d'être en direct avec nous. Ma question est très simple.
Bonjour.
Vous connaissez parfaitement Marseille, vous connaissez parfaitement votre département. On peut encore sauver Marseille de la délinquance ?
Oui, je connais bien Marseille, et notamment les quartiers nord de Marseille, où j'ai grandi, où j'ai travaillé, où je vis encore et où je suis élu aujourd'hui. Donc ces quartiers dont on parle, je les connais, je dirais pas sur les bouts des doigts, mais voilà, j'ai vu leur évolution, malheureuse, parce que les choses ont empiré depuis l'époque où j'habitais dans ces cités.
Alors, est-ce qu'on peut encore sauver Marseille de la délinquance ? Est-ce que le plan du président de la République va véritablement changer quelque chose ? Il vient avec 1 milliard d'euros pour les écoles, très bien. Mais 156 points de deal à Marseille. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce que Gérald Darmanin peut faire de plus que ce qu'avait ambitionné de faire Gérard Collomb, ce qu'avait ambitionné de faire Manuel Valls, ce qu'avait ambitionné de faire nombre de ministres de l'Intérieur avant eux?
Bon, d'abord, on est sur l'opération, à mon sens, qui est celle de la dernière chance. On ne peut pas intervenir plus haut qu'en faisant venir le président de la République, en tout cas en ayant le président de la République qui vient à Marseille sur 3 jours, avec des moyens considérables pour la ville. Pour répondre à votre question, moi je pense, d'abord parce que je suis optimiste et parce que je connais ma ville et que je sais que 95 voire plus des personnes qui habitent ces territoires ont juste envie de vivre en paix, je pense qu'on peut éradiquer cette violence. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est que la délinquance est la partie émergée de l'iceberg et le symptôme d'un mal beaucoup plus profond qui est le recul de la République dans ces territoires. Vous avez 3 arrondissements qui concentrent 80% des logements sociaux. Vous avez une ville fracturée en termes de transport en commun. Il est extrêmement difficile, lorsque vous habitez les quartiers nord de Marseille, d'aller travailler tout simplement, d'aller faire ses études, d'aller poursuivre une activité professionnelle parce que les moyens de transport manquent et que vous êtes en situation de précarité, vous n'avez pas les moyens d'avoir un véhicule. Et donc il faut résoudre à la base ces problèmes-là, qui sont des problèmes d'absence de la République, pour faire en sorte que sur le long terme, on arrive à éradiquer les trafics. Personne ne peut croire que si du jour au lendemain, imaginons que nous arrivions à éradiquer les trafics de drogue à Marseille, personne ne peut croire que les problèmes des quartiers de Marseille seraient résolus, parce qu'ils persistent. Et ce sont ces problèmes-là qui engendrent ces trafics. Et il y a aussi la responsabilité, et moi je tiens à le dire aujourd'hui à votre antenne, un peu comme d'ailleurs Monseigneur Aveline hier, il y a la responsabilité des consommateurs. On est sur un marché avec une offre et une demande, et moi je reste assez effaré de l'absence de prise de conscience des centaines et centaines de clients qui viennent de tout Marseille, dans ces quartiers-là, qui passent des barricades, qui passent devant des immeubles délabrés, qui voient ces familles souffrir, qui achètent leur barrette de shit et qui repartent chez eux tranquillement en se disant « je vais fumer ma barrette », mais ne portent aucune responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une action commune, justice, sécurité, mais là on est sur de l'aval, c'est-à-dire qu'on travaille sur des délinquants et des réseaux. Pour faire en sorte qu'il y ait moins de réseaux, il faut travailler sur les services publics, mais il faut aussi sensibiliser les Français, qui sont les plus gros consommateurs en Europe de stupéfiants, sur
effectivement,
l'impact...
Effectivement, le message est passé. Il va y avoir des policiers supplémentaires, mais quand j'interroge les policiers, ils disent tous la même chose. Hein. On arrête les délinquants, mais ils sont relâchés. Pourquoi pas construire des places de prison ?
Non, mais si vous voulez, on peut en discuter évidemment très longtemps. Je pense que les moyens que l'on a mis en place sont des moyens qui n'ont pas de précédent à Marseille. Le budget du ministère de la Justice, je suis commissaire aux finances, la commission des finances, a été augmenté de plus de 16%. Jamais, en tout cas sur les 10-15 dernières années, ce budget n'avait augmenté. On fait la même chose sur les policiers à Marseille. Mais je vous le dis, si on est uniquement sur l'aspect sécuritaire, on rate ou on ratera ce que l'on veut faire sur Marseille. Il faut avoir une vision à 360 et agir sur tous les aspects, sur tous les points sur lesquels la République doit être présente.
Vision à 360. Merci beaucoup, monsieur le député. La République en marche des Bouches-du-Rhône. Saïd Ahamada, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. 12h43, restez bien sur Europe 1. On va parler avec Carole Ferry du revenu d'engagement pour les jeunes. Tiens, c'est une nouvelle aide sociale. Est-ce qu'elle va être efficace, celle-ci ? On va voir ça avec Carole. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h46. Si vous avez des enfants, attention, la rentrée, il ne faut pas oublier, c'est demain. Si vous êtes prof, c'était ce matin. Cette année, les enseignants vont devoir lire des modes d'emploi, des purificateurs d'air, des détecteurs de CO2 ou encore, ils vont devoir apprendre à manier le coton-tige. Virginie Riva, avec nous. Vous étiez ce matin avec des professeurs dans un lycée parisien. Comment ça s'est passé ?
Alors, ça s'est plutôt bien passé. L'après-rentrée a commencé au lycée Jean de la Fontaine par les mots assez rassurants de la proviseure Madame Daudinet face à ses 120 enseignants pour cette deuxième rentrée sous Covid.
J'aborde cette rentrée avec beaucoup d'optimisme. Il n'y a rien de nouveau, on sait comment faire.
Voilà, on sait comment faire. Hein. La seule nouveauté, c'est de devoir isoler rapidement les élèves qui seront en cas contact non vaccinés. Ça sera sous la responsabilité directe d'ailleurs de la proviseure qui s'occupera de récupérer les déclarations sur l'honneur des parents. Les enseignants, de leur côté, ont eu, eux, leurs emplois du temps avec des cours en 100% présentiel avant de faire la traditionnelle photo de rentrée dans la cour de récréation sans masque. Des profs, eux aussi, plutôt optimistes également, même si le port du masque pèse beaucoup cette année encore. Virginie est prof de français.
On est très nombreux à être vaccinés. Les élèves, je pense aussi. Je pense que les parents ont joué le jeu et ont fait vacciner. Au moins, on fait faire une première dose à leurs enfants. La seule chose qui m'embête, j'avais espéré, de manière peut-être un peu trop optimiste, qu'on pourrait faire cours sans le masque, parce que ça, c'est vraiment très fatigant, très pénible. On n'entend pas bien les élèves.
Voilà, alors l'idée cette année, a insisté la proviseure, c'est de faire passer les questions pédagogiques avant les questions sanitaires. Dans la mesure du possible, elle les encourage à monter des projets, à organiser des sorties pour une rentrée qui se veut, à ce stade, normale.
Virginie Riva, merci Virginie.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Les syndicats et le patronat vont défiler dans le bureau de Jean Castex à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Il va être notamment question de ce qu'on peut appeler le revenu d'engagement pour les jeunes. C'est une nouvelle aide sociale, ça divise au sein du gouvernement. C'est censé être du donnant-donnant, un engagement à se diriger vers l'emploi contre un revenu jusqu'à 500 euros par mois. Mais on a déjà eu le RMI, Carole Ferry, avec le I de insertion qui a été oublié en route. Ensuite, il y a eu le RSA avec le A d'activité qui a été oublié en route. Carole, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait cette fois-ci?
Alors écoutez, Bercy en tout cas l'assure, ce ne sera pas un chèque en blanc signé aux jeunes, alors que se jouent en ce moment les derniers arbitrages du projet de loi de finances 2022, notamment sur ce nouveau dispositif. L'idée, c'est vraiment, comme vous l'avez dit Romain, d'accompagner les jeunes vers l'emploi via contrat, ça s'appelle pas revenu, ça s'appelle contrat. Vous voyez, c'est vraiment il joue sur les mots volontairement pour éviter qu'il y ait confusion. Donc un contrat dans lequel le jeune s'engage à faire une immersion en entreprise, une formation si nécessaire, un stage de lutte contre les addictions, en tout cas un pas vers le marché du travail. En contrepartie, il peut recevoir une aide allant jusqu'à 500 euros. Quand c'est nécessaire, précise Matignon, l'aide financière serait modulable selon le contexte personnel et familial du jeune. Ce contrat, il s'adresse aux 18-25 ans sans emploi, sans formation ou en emploi précaire. Selon nos informations, il pourrait être étendu aux 25-30 ans, justement pour inciter cette tranche plus âgée à quitter le RSA ou le RMI pour se diriger vers ce nouveau contrat d'engagement plus dynamique, en tout cas censé être plus dynamique. Cette mesure est réclamée par l'aile gauche du gouvernement. L'aile droite veille de son côté à ce qu'elle ne devienne pas un RSA jeune. Il reste toutefois des contours à affiner. L'objectif donc pendant cette rencontre avec les partenaires sociaux, c'est de soumettre le projet à l'avis des participants, d'évaluer les trous dans la raquette du dispositif « Un jeune, une solution » pour à l'issue déterminer les clauses de ce nouveau contrat qui devrait être présenté fin septembre par Emmanuel Macron.
Voilà, ça fait débat. Hein. Ça fait débat au sein même du gouvernement. Puis ça fait débat en France parce que c'est une nouvelle aide sociale. Est-ce qu'elle sera vraiment efficace? Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces explications et ces informations. Allez, c'est une histoire dont je voulais absolument vous parler dans Europe Midi. Un train de marchandises attaqué hier en pleine journée. Ça s'est passé à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1 a enquêté. Déjà, Gladys, racontez-nous comment ces individus ont-ils fait pour arrêter un train?
Eh bien, ils sont tout simplement montés dessus, hein, ce qui est assez peu compliqué pour une équipe expérimentée, puisque ce genre de train de fret circule à vitesse très réduite. Et donc, une fois montés sur le train, les malfaiteurs ont déclenché le système d'arrêt depuis l'extérieur, ce qui nécessite déjà de savoir que cela est possible sans entrer à l'intérieur du train. L'équipe était donc probablement bien renseignée. Alors, les enquêteurs ne savent pas combien ils étaient, puisqu'il n'y a quasiment pas de témoins de la scène. Le conducteur du train n'a pas encore été entendu. En tout cas, c'est la première fois que ce mode opératoire est utilisé dans le secteur. Et c'est cela qui étonne le plus les policiers. Pas vraiment le préjudice, hein, puisque les voleurs sont tombés sur un wagon de carton venu d'un magasin bas de gamme. Il y avait aussi du petit mobilier et des petits arbres. Rien de valeur donc. Il s'agit maintenant d'identifier ces individus qui n'ont laissé aucun indice. Une fois l'alerte donnée, ils se sont enfuis et ont trouvé refuge dans un camp de gens du voyage. Et c'est à ce stade la piste privilégiée.
une attaque de train en pleine journée. Voilà, c'était hier près de Clermont-Ferrand. On part à présent à Moissac, au nord de Toulouse. Vous allez comprendre pourquoi les prix des fruits et légumes ont sacrément augmenté, notamment les prix des prunes. La récolte est très mauvaise cette année. Reportage Europe 1 de Benjamin Peter.
Regardez, voilà les petites prunes, regardez comment elles sont devenues, voilà. Elles ont séché, puis voilà.
C'est le gel, moins 5 degrés début avril qui a brûlé 90% des prunes de Maurice Andral installées autour de Moissac, et à l'heure de la cueillette, les pertes sont colossales.
Cette année, normalement, j'aurais dû faire 700 tonnes de prunes, et j'en ai fait 40. Les années normales, nous vendons la prune entre 0,70 et 0,80, le kilo, et cette année, ça s'est négocié entre 2 euros et 2,20 euros. Au consommateur, c'est quelque chose à 5 euros. De mon existence depuis 84 que je suis agriculteur, je n'ai jamais connu des prix comme ça.
Plus largement, la production nationale de prunes a été amputée de moitié. Pour Joël Boyer de chez Philibon, qui préside l'association professionnelle de la prune, ça se répercute forcément sur les prix sur les étals.
Imaginez, pour aller ramasser 5 prunes en haut de l'arbre, déplacer l'échelle et aller ramasser à nouveau 5 prunes de plus, ça demandait beaucoup plus de travail. Hein. Et donc, un kilo ramassé beaucoup plus cher que la normale, dont le chiffre d'affaires ne va pas être compensé, mais les fruits sont 50%. Pour ça, plus cher. Oui.
Et lui qui expédie également le fameux chasselas de Moissac redoute une hausse des prix du raisin, alors que les vignobles, eux aussi, ont été durement touchés par ici, par les intempéries, et que les vendanges ont déjà 15 jours de retard. À Moissac, Benjamin Peter, Europe 1.
Europe Midi.
Les infos mercato, les dernières informations sur le mercato avec Jean-François Pérez qui s'installe dans le studio. On va pas parler de Kylian Mbappé, hein, Jean-François, parce que Kylian Mbappé il reste à Paris, hein.
On va en dire un petit mot. Rapide.
On va parler d'Antoine Griezmann.
Surtout.
À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h55, il part, il change de club. Non, ce n'est pas Kylian Mbappé qui finalement reste à Paris, c'est Antoine Griezmann. Il revient à l'Atlético de Madrid et quitte le FC Barcelone. Jean-François Pérez, racontez-nous cette folle nuit de transactions.
Ah oui, c'était dingue. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2018, Antoine Griezmann avait mis en scène son plan de carrière dans un documentaire payant qui s'appelait La Décision. Et à l'époque, il annonçait au terme d'un suspense insoutenable qu'il restait à l'Atlético Madrid. La forme un petit peu surpris, voire déplu, et bien 3 ans plus tard, c'est vraiment l'arroseur arrosé, puisque le champion du monde 2018, vous l'avez dit, a vécu l'une des nuits les plus stressantes de sa carrière. Il est en situation délicate à Barcelone, il aspire à revenir à l'Atlético Madrid. Tout semble réglé pour en près d'une saison, quand, sur les coups de minuit, on apprend que le dossier est bloqué pour des raisons administratives. Or, dans le foot, dans le marché des transferts, tout doit être validé à la minute près, sinon ça capote. Finalement, à 1h du matin, le club madrilène a officialisé le retour du Français. Griezmann retrouve donc le club qui avait fait de lui l'un des plus grands joueurs du monde. Mais son passage à Barcelone, qu'il avait tout de même acheté 120 millions d'euros en 2019, bien ça ressemble davantage à un échec qu'à une réussite.
Jean-François, Griezmann sera sur la pelouse ce soir avec les Bleus pour leur rentrée.
Absolument. 2 mois se sont écoulés depuis la cuisante élimination en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse. Et le sélectionneur Didier Deschamps, eh bien, il est impatient de retrouver le terrain et d'effacer ce mauvais souvenir.
Il ne faut pas changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé. On est sur un nouvel objectif. Je sais très bien que l'attente est toujours là et l'obligation a toujours été là à n'importe quel moment parce que c'est l'équipe de France. Mais on est sur un nouvel objectif qui est très important.
Et l'objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. France-Bosnie-Herzégovine ce soir à Strasbourg à 21h. On y sera avec Cyril Lamorinerie et 22 000 spectateurs qui garniront le stade.
Merci Jean-François. Le temps tout de suite avec vous Anissa Haddadi. Ce premier jour du mois de septembre sera ensoleillé.
Et ce premier jour de septembre, Romain, c'est le dernier des grandes vacances, évidemment. Et c'est aussi le premier jour de l'automne météorologique. Et bien cet automne météo commence très bien avec une journée très ensoleillée. C'est clairement un temps estival. Nous avons un anticyclone qui nous offre aujourd'hui un temps sec et ensoleillé sur une grande partie de la France. Alors ça y est, les grisailles de ce matin sont quasiment dissipées partout. Il reste que quelques nuages encore accrochés sur le littoral de la Manche. D'ailleurs, sur le littoral de la Manche et le littoral atlantique, nous avons encore cette bise de nord-est qui souffle aujourd'hui jusqu'à 50 km/h en rafale. Partout ailleurs, c'est du très beau temps. En Occitanie, il y a un voile nuageux qui est un petit peu plus important cet après-midi et qui pourra de temps en temps masquer le soleil. Et puis en fin de journée, on va suivre cette dégradation orageuse qui touche les Pyrénées uniquement en montagne avec des orages qui éclatent. Cet après-midi, il va faire bon, comptez 21 degrés à Saint-Brieuc, 22 à Caen, 23 pour Paris et Belfort. Nous aurons 25 degrés à Nantes, 26 pour Limoges et pour Lyon, 27 degrés à Biarritz, 28 pour Marseille, 30 à Nîmes et 31 degrés la maximale à Cahors.
Merci Anissa, 12h58. On se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.